Good Morning Business, le grand débrief.
Et un grand débrief exceptionnel puisque nous sommes vendredi et que Marc Fiorentino est là, que Benaouda Abdedaïm est là également et que Jean-Marc Daniel est là. Donc c'est quand même une émission absolument exceptionnelle. On va commencer avec le PIB de la France. Stéphane, vous nous redonnez les chiffres?
Oui, plus 0,2% sur le trimestre. C'est un ralentissement évidemment par rapport au trimestre précédent. En rythme annuel, on est toujours sur une croissance de 1%, mais là encore, c'est un coup de frein par rapport à la croissance annualisée qu'on avait sur le trimestre précédent. On va commencer avec Jean-Marc. Tout seigneur, tout honneur, ancien de l'INSEE.
Absolument, absolument, et je m'en flatte. Et non, je ferai deux commentaires par rapport à ça. C'est-à-dire que c'était attendu. C'est un peu comme la décision d'ailleurs de la Banque centrale européenne dont on va parler tout à l'heure. Donc il n'y a pas de grande surprise. Ce qui est important, c'est que ça va faire probablement une croissance sur l'année de 2,6%. Et donc ça veut dire que le PIB de 2022, c'est à peu près celui de 2019. Et comme le disait notre président de la République dans son intervention récente, entre 2019 et aujourd'hui, il y a entre 70 et 80 milliards d'euros qui ont été ponctionnés par la crise énergétique. Et donc, normalement, le niveau de vie des Français devrait avoir baissé à hauteur de 70 ou 80 milliards d'euros. Pour l'instant, on ne résout ce problème que par de la dette publique et de la fuite en avant, mais ce n'est pas tenable. Et donc, la deuxième remarque, c'est est-ce qu'il y a des rebonds possibles l'année prochaine? Donc, l'INSEE, dans son commentaire, dit on va probablement avoir un autre trimestre, un quatrième trimestre à croissance nulle, éventuellement même un premier trimestre 2023 à croissance nulle, et puis ensuite, ça va repartir. Il y a des facteurs que je trouve quand même plutôt rassurants, en particulier le taux d'utilisation des capacités de production a baissé. Ça veut dire que l'économie française a une capacité de réaction immédiate qui est assez forte. On est à 80% de taux d'utilisation des capacités de production. Ça veut dire que si des signaux positifs apparaissent, très vite l'économie française va repartir. Et dernier élément sur cet aspect positif, c'est l'investissement qui est au rendez-vous. Et donc là, ça veut dire que les entreprises finalement
continuent d'investir.
Elles ont une trésorerie qui a été effectivement abîmée par le prix de l'énergie, mais qui reste quand même relativement favorable. Donc, il y a quand même des facteurs qui sont des facteurs rassurants dans la note de l'INSEE.
Marc, on a acheté cette croissance?
Exactement. Si vous dites tout ce que je vais dire...
Bah, j'y peux rien, mais on est connectés, vous savez, depuis longtemps.
Non, je ne suis pas d'accord, évidemment, avec Jean-Marc, parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne nouvelle là-dedans. On est dans une croissance à crédit. On est typiquement dans le profil français. Ce chiffre-là est à l'image de la France. C'est-à-dire, on achète... D'abord, on ralentit quand ça ralentit. On amortit les chocs, oui, parce qu'on paye à crédit une partie de la croissance. Et donc, on est dans un élément qui est rassurant, oui, parce qu'on retourne dans notre rôle habituel, c'est-à-dire d'une croissance molle. Et quand Jean-Marc dit on se retrouve dans les chiffres de 2019, il a raison de dire qu'entre-temps, on a juste exploser la dette, exploser les déficits. Bon, il y a eu évidemment des événements dramatiques, hein. Il y a eu le Covid, il y a eu évidemment la guerre en Ukraine, et il y a toujours la guerre en Ukraine, mais on se retrouve quand même dans une situation où on a le sentiment qui est devenu insupportable, et d'ailleurs, moi je prends toujours ce chiffre, hein, qui est le chiffre de l'épargne des Français, c'est-à-dire les Français ont conscience que l'État français gère mal les finances publiques, c'est-à-dire qu'on continue à s'acheter de la croissance à crédit, et jusqu'à présent, on avait un chéquier en blanc de la Banque Centrale Européenne. Maintenant, avec les tensions dont on a beaucoup parlé cette semaine entre la France et l'Allemagne, j'ai l'impression que ce chéquier s'est terminé. Et si on n'a plus l'argent de la BCE, si on n'a plus l'argent de l'Allemagne, ça sera un peu compliqué de continuer à s'acheter de la croissance à crédit.
Marc, une croissance à crédit, on peut dire ça depuis 30 ans, 40 ans?
Oui, alors plus ou moins.
À nouveau?
Plus ou moins. Non, c'est pas nouveau. Le dérapage, il date de. On a commencé en 1974. Donc, on peut dire qu'on est là-dedans. C'est le modèle français. Hein. C'est le modèle français. Mais on a eu des périodes où on a eu une croissance qui était une croissance qu'on n'avait pas besoin d'acheter. Là, aujourd'hui, on achète notre croissance. Il faut compenser, on l'a dit souvent, les impacts négatifs de la crise. Mais essayer de compenser à l'euro près la baisse de la croissance par de la dette et du déficit, c'est une aberration.
Je ne suis évidemment pas d'accord avec le fait que ça date depuis 1974. En fait, quand on regarde l'évolution de la croissance française, on s'aperçoit qu'on avait une croissance, notamment dans les années 90, qui avait été rétablie sur des bases qui étaient relativement saines, avec un excédent de la balance des paiements courants. Le véritable rupture, c'est 2002. Et 2002, il y a deux interprétations. L'interprétation des keynésiens qui disent on ne peut plus dévaluer depuis 2002, donc c'est parce que l'euro est trop fort, alors que l'euro n'arrête pas de se dévaluer. Et l'interprétation réelle, objective, c'est que depuis 2002, il y a les 35 vainqueur. Et donc le pays qui subit la crise de productivité de l'ensemble des économies occidentales est dans l'incapacité de répondre par la mobilisation du travail. Donc on a substitué, alors là je rejoins ce que disait Marc, on a substitué de la dette au travail, et ça c'est assez vite une impasse.
Troisième hausse de taux pour la Banque Centrale Européenne depuis cet été, 75 points de base, l'annonce a été effectuée hier. Mais elle a aussi donné, et on va en parler aussi avec Ben Aouda, elle a aussi donné des indications sur un possible ralentissement dans ce cycle de hausse des taux. Où est-ce que la BCE place le curseur, Ben Aouda, entre d'un côté effectivement le besoin de lutter contre l'inflation et de l'autre la nécessité de ne pas casser non plus la croissance ?
On avait l'impression lors de la conférence de presse, je ne sais pas si c'était la vôtre, de Christine Lagarde, qu'elle s'adressait davantage à Berlin qu'à Paris ou à Rome. Et de ce point de vue-là, c'était comment voir comment elle, comment la Banque Centrale Européenne, sous sa direction, percevrait ce resserrement monétaire. Ce qui est frappant, c'est que on considère qu'elle est encore à la remorque de Washington et de Londres de ce point de vue-là, qu'elle essaye désespérément de rejoindre ce rythme-là, mais qu'elle n'y parvient toujours pas. Mais qu'effectivement, on a peut-être maintenant une décélération dans cette remontée des taux. Et toujours pour revenir à cette relation ambivalente entre ces trois capitales-là, il était frappant de voir, lorsque la question a été posée sur la réaction de Giorgia Meloni, la nouvelle présidente du Conseil italien, qui a estimé que la hausse des taux d'intérêt était en train de nuire non seulement aux pays endettés, mais aux entreprises et aux ménages de ces pays endettés, c'est-à-dire à l'Italie, et aussi sous-jacent, lorsque le président français avait précédemment critiqué le fait que l'objectif ne pouvait pas être de baisser l'inflation en cassant la demande. La réponse a été sèche de la part de Christine Lagarde. Nous devons faire ce que nous devons faire. Et une banque centrale a pour mandat de stabilité des prix, la stabilité des prix, et doit le poursuivre par tous les moyens.
Il était temps qu'elle se le rappelle.
Alors, c'était un message clairement adressé,
un message adressé à elle.
De Francfort. Oui, de Francfort à Berlin, qu'elle avait compris le message qui était souhaité. Et en rappelant des évidences comme les bas revenus ne sont pas seulement vulnérables au risque de récession, mais aussi à la réalité de l'inflation. Et de ce point de vue-là, Christine Lagarde a peut-être convaincu Berlin, pas encore l'ensemble des économistes de marché allemands qui disent que c'est là trop tard, pas assez, etc. Et à peu près la presse économique allemande. Donc de ce point de vue-là, elle est en train peut-être de rattraper son retard.
Le mandat de la BCE, c'est la stabilité des prix et uniquement la stabilité des prix. Marc Fiorentino, Christine Lagarde fait trop de politique ?
Non, je suis effaré par l'incompétence de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire qu'il faut se reporter quand même quelques mois en arrière. Avant l'Ukraine, on voit que l'inflation arrive. C'est l'effet logique de l'après-Covid. Argent magique, plan de soutien, effet rattrapage. On est sûr, il n'y a pas de question à se poser. L'inflation arrive. On dit qu'il n'y a pas d'inflation. Puis il y a l'Ukraine, on ne peut plus nier qu'il y a de l'inflation. Elle dit qu'elle est temporaire. Quand même,
la Fed a fait exactement la même chose.
Non, c'est la Banque Centrale Européenne, peut-être la Fed aussi. Et puis on arrive à une période où elle nous dit, maintenant, il y a de l'hyperinflation, mais on sent très bien qu'il y a une sorte d'incantation, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté de ne pas casser la croissance, et donc la Banque Centrale Européenne, en fait, elle espère, elle prie qu'il y ait une récession en Europe qui soit tellement forte que finalement, elle n'est pas à faire ce qu'elle doit faire, ce qu'elle devrait faire, c'est-à-dire monter les taux d'intérêt fort, comme l'ont fait les États-Unis, peut-être pour les rebaisser derrière, c'est son mandat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un taux d'inflation qui est un taux d'inflation extrêmement élevé, on a des taux d'intérêt à 1,5%. C'est totalement ridicule, déconnecté. Elle n'est pas dans son rôle. Son rôle, ce n'est pas de jouer, son rôle, c'est de réagir aux événements. Donc là, à mon avis, elle peut avoir raison par chance ou par accident. C'est-à-dire que si on a le ralentissement économique qu'on attend, et si on a la baisse de l'inflation liée à la baisse de la demande et liée peut-être à la fin ou le fait que les prix de l'énergie commencent à baisser, on peut se retrouver avec, par accident, la Banque Centrale qui a raison de ne pas aller trop fort. Mais je trouve qu'il y a quand même... Moi, je lui fais un procès en incompétence totale. C'est-à-dire que ce sont les gens qui nous guident en matière de politique monétaire et ils se sont trompés depuis 2 ans.
Vous allez être aussi dur, Jean-Marc Daniel ?
Ah non, je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Marc Fiorentino. Je crois que la grande illusion et la grande erreur, elle est sur ce que peuvent les banques centrales. C'est pas un procès en incompétence, c'est un procès en impuissance. On a donné à la Banque Centrale des fantasmes qu'elle pouvait, c'est la grande modération, la Banque Centrale va nous donner la croissance.
C'est ce qu'elle a fait pendant des années. Elle a acheté la dette, elle a permis d'avoir une dette française négative, alors qu'on a un taux d'endettement qui est ridicule et un déficit. Elle peut donc quelque chose.
Peut-être qu'elle peut plus.
Non, elle peut quelque chose, mais pas ce qu'on lui prétend qu'elle peut faire. C'est-à-dire que, je reprends ce que vient de dire Stéphane, c'est un grand mythe qui consiste à dire la grande différence qui entre la Banque Centrale Américaine et la Banque Centrale Européenne, c'est que la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix. Aux États-Unis, c'est le plein emploi et la stabilité des prix. Sauf que M. Powell nous dit, je peux pas avoir la stabilité des prix avec le plein emploi. Donc son mandat est totalement fictif. Donc ces textes sur lesquels on se réfère sont fictifs. Donc le véritable enjeu, c'est que peut faire vraiment une banque centrale? Et une banque centrale, elle peut limiter le crédit, elle peut effectivement faire monter les taux d'intérêt. Mais je rappelle que dans le mandat de la, puisqu'on en revient au mandat, dans le mandat de la Réserve fédérale, il y a aussi avoir un taux d'intérêt qui est égal au taux d'intérêt au taux d'intérêt naturel. Et le taux d'intérêt naturel, c'est le taux de croissance potentielle. C'est déjà le cas aux États-Unis et en Europe. Donc, rien que sur ce mandat, elle devrait arrêter de faire monter ses taux d'intérêt. Donc, je pense que, en réalité, on est dans une situation où la Banque Centrale n'a pas les outils pour lutter contre l'inflation. La Banque Centrale n'a jamais eu les outils pour faire de la croissance. La Banque Centrale, et on en revient justement, ça a été créé pourquoi une Banque Centrale? Alors, je ne vais pas refaire l'histoire de quel était le statut de 1694, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais une banque centrale, à l'origine, ça a été créé pour assurer la stabilité du système financier en garantissant l'existence d'un actif sûr qui était la dette publique. Eh bien, je pense que la seule chose que doit faire la banque centrale, c'est ça. Et donc, dans l'immédiat, et là, je rejoins ce qu'on a dit, ce que disait Benahouda, c'est le fait que, effectivement, ce que demande Berlin, c'est qu'on dise aux Français et aux Italiens, il faut que votre actif soit un actif sûr, il faut que votre dette publique soit une dette publique sûre, et pour ça, il faut que vous évitiez d'en créer à l'infini, parce qu'à ce moment-là, ça met en porte-à-faux la banque centrale.
Après, on peut aussi rappeler la peur bleue des Allemands par rapport à l'inflation. On connaît aussi leur position historiquement sur l'inflation.
Oui, mais enfin, elle a évolué. Parce que si c'était le cas...
Ce ne sont pas les plus colombes autour de la table.
D'accord, mais si c'était le cas, ils n'auraient jamais permis ce qu'ils ont permis de faire, et là, je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc, c'est-à-dire ce dérapage totale pendant des années où la Banque Centrale Européenne a fait n'importe quoi, y compris acheter de la dette des États, endettés et en déficit.
Je voudrais savoir si Benahouda pense qu'on en demande trop aux banquiers centraux ou si en fait ils sont juste incompétents.
Alors, peut-être qu'il y a aussi un point fondamental à prendre en compte, ce sont les injonctions contradictoires auxquelles doit faire face la Banque Centrale Européenne et auxquelles ne doit pas faire face la Banque d'Angleterre ou la Banque des États-Unis, qui n'a qu'un seul interlocuteur. Lorsque vous entendez Giorgia Meloni dire exactement le contraire de ce que dit Olaf Scholz, lorsque vous entendez aussi lors du dernier conseil des ministres franco-allemand, ministre des Finances, Christian Lindner dire à peu près l'inverse de ce que a dit Bruno Le Maire et qu'il a redit d'ailleurs chez vous hier, il y a ce facteur-là de la difficulté de créer une forme de convergence politique. Et c'est pour ça que ce sont, somme toute, de plus en plus des politiques qui deviennent banquiers centraux en Europe.
D'où leur incompétence.
Christine Lagarde, c'est une ancienne ministre, une juriste, mais une ancienne ministre, directrice générale du FMI, qui est une fonction éminemment politique maintenant. Et donc, ils n'ont pas, ces banquiers centraux-là n'ont pas à rendre des comptes à un seul gouvernement, d'une seule tendance. Et là, effectivement, parvenir à combler le grand écart entre ne serait-ce que ces trois grandes capitales des trois principales premières économies de la zone euro, ça relève de la gageure.
Benahouda parlait de contradictoires. On a évidemment la dette, il y a l'inflation, il y a la croissance, mais il y a aussi la dette.
Absolument.
Si la BCE continue de relever ses taux, on la gère comment, cette montagne de dette?
Mais c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'on est, et là je rebondis sur ce que disait Jean-Marc, on est dans ce délire. Moi je me rappelle dans l'émission de C'est votre argent, je demandais aux économistes, mais c'est quand même incroyable que la Banque Centrale continue à distribuer de l'argent, racheter de la dette, alors qu'on est dans une situation qui est totalement aberrante en termes de taux d'intérêt, d'endettement, c'est-à-dire qu'il y a une réalité. Si on a du déficit et si on est très endetté, il doit y avoir une prime de risque. Donc la question, je vous la retourne, c'est de dire comment on peut continuer à subventionner de la dette et du déficit, si on continue à le faire comme on l'a fait pendant 10 ans, eh bien vous avez la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire tourner la machine à déficit, à faire de la dette, parce qu'on se dit bah finalement, rien à foutre, derrière c'est la Banque Centrale Européenne qui va nous subventionner.
Sur un marché de la dette fragmenté, et ça aussi c'est une difficulté supplémentaire qu'a la BCE par rapport aux autres banques centrales.
Mais j'ai envie de dire que ça c'est la bonne nouvelle, parce qu'on a enfin un gendarme, c'est le gendarme des marchés qui a repris la main, qui a fait qu'en Angleterre par exemple, on n'a pas pu faire n'importe quoi et que le gouvernement a sauté au bout de 2 mois, et bien c'est la même chose. Aujourd'hui, heureusement, on a le gendarme des marchés qui dit si vous allez trop loin dans les déficits ou dans la dette, on sanctionne.
On va arrêter de parler de la BCE parce que ça vous fait dire des gros mots. Il faut qu'on parle de la tech américaine,
oui,
Jean-Marc.
Juste deux choses sur la BCE et tout ça. Le véritable enjeu, c'est quelle part de dette elle va racheter. Elle en a 4 000 milliards. Elle en a beaucoup moins que la Banque Centrale Américaine, que l'on met en exemple. Donc, et sans parler de la Banque Japonaise, qui détient la moitié de la dette publique japonaise, qui est un pays qui, effectivement, dégage des excédents extérieurs. La deuxième remarque que je ferai très rapidement, c'est le fait que le vrai problème politique, il est effectivement dans cette gestion des finances publiques. Il y a 12 pays sur les 27 qui ont un déficit qui est inférieur à 3%, au célèbre 3%. 12 pays. Donc, il y a 12 pays qui sont totalement en conformité avec les traités. Or, la France...
Ce qu'il en reste.
Oui, or la France, non seulement elle n'est pas en conformité avec les traités, mais elle annonce, urbi et torbi, que les 5%, alors qu'elle avait déposé un projet de loi de finances à 4,7% de déficit, les 5% seront probablement le résultat de la discussion budgétaire du moment. Donc il y a une côté, en plus, provocation dans le gouvernement français qu'il n'y a pas chez les Italiens.
Vous mettez beaucoup d'énergie pour qu'on ne parle pas de la tech américaine, mais on va le faire quand même. Parce que je sais que ça ne vous intéresse pas. Mais il nous reste 2 minutes, mais ça intéresse Marc.
Ah, bon, alors ça n'a pas d'intérêt.
C'était moche quand même. D'accord, c'est pas terrible quand même.
L'orage arrive. C'est le moins qu'on puisse dire. Très rapidement, c'est très intéressant parce qu'il y a deux phénomènes là-dedans. Il y a un phénomène purement boursier, il y a un phénomène économique. Il y a un phénomène macroéconomique, c'est-à-dire que ce sont devenus de tels paquebots que ce sont des indicateurs avancés de la situation économique américaine et économique mondiale. Donc, il y a ralentissement de l'économie mondiale, il y a le ralentissement des levées dans le domaine de la tech, donc des dépenses dans la publicité digitale, donc il y a ralentissement de leurs résultats. Jusque-là, tout est normal. On s'aperçoit que ce sont finalement des boîtes qui fonctionnent comme les autres boîtes. Elles sont pas normales, elles sont normales, elles vivent pas dans une autre planète. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il est purement boursier. Il faut pas oublier que depuis 10 ans, tous les flux d'actions vont vers les GAFA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes gérant de fonds et que vous n'aviez pas dans votre portefeuille du Apple, du Facebook, du Google, vous aviez une performance qui était dramatique. Donc, tout le monde était là-dessus. Et aujourd'hui, on assiste à un phénomène de rééquilibrage purement boursier. Là, on n'est pas sur les fondamentaux, on est sur l'aspect boursier. Et donc, je trouve que
c'est normal, en fait.
Bah, je trouve qu'on est comme dans tout le reste, comme vous parliez tout à l'heure de niveau de dette des États, des taux d'intérêt. On est dans une phase que j'appelais de mes voeux depuis un moment, c'est-à-dire qu'on revient à la normale.
Et puis il y a, somme toute, un rééquilibrage sur le poids réel dans les relations internationales de ces immenses paquebots. C'était intéressant de voir le directeur financier d'Amazon cette nuit invoquer la guerre en Ukraine. Mark Zuckerberg, et c'est une anecdote que je donne un peu trop souvent, mais vous ne m'en voudrez pas, Mark Zuckerberg, la dernière fois qu'il a rencontré Narendra Modi, le Premier ministre indien, lui a dit « ma population est supérieure à la tienne ». Dans le sens où on était le président de Facebook, Meta, etc., se sentait à l'égal d'un chef d'État, comme un chef de gouvernement comme celui de l'Inde. C'est aussi une manière de redescendre et les marchés financiers se sont chargés de le faire redescendre ces dernières 48 heures.
Merci à tous les trois.